Norbert Navarro nous a rejoint pour la revue de presse. Bonjour Norbert.
Bonjour Grégory, bonjour à tous.
À la une de la presse hebdomadaire, l'entrée poussive des Bleus dans le mondial de football.
Oui, après la victoire de la France 2-1 contre l'Australie, l'équipe s'inquiète des débuts laborieux de l'équipe de France. Ce journal sportif a trouvé ce France-Australie très mauvais et il se demande quelle direction doit prendre le sélectionneur français Didier Deschamps pour la suite de la compétition. Une victoire contre l'Australie, certes, mais des doutes enchérit le journal du dimanche.
La crise des migrants avec ce matin cette tribune de Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, accuse.
Elle accuse l'impuissance des dirigeants de l'Europe qui, écrit-elle, font la courte échelle aux extrémistes irresponsables et fanfarons. Espagne, notre lueur, lance Christiane Taubira dans cette tribune publiée par le journal du dimanche. Car face à l'afflux de migrants en Europe, la panique gagne, la chancelière recule, l'Italie bascule et chez nous, la parole officielle fait des gammes sur la misère du monde, énonce encore Christiane Taubira dans le JDD.
Dans la presse magazine cette semaine, Norbert, du nouveau dans l'affaire Ben Barka.
Oui, dans un dossier de une consacré à ces espions qui tuent, l'hebdomadaire L'Obs ouvre le dossier noir du Mossad en s'appuyant sur les révélations d'un journaliste israélien du nom de Ronen Bergman, auteur d'un livre intitulé « Rise and Kill First » et dans lequel, en effet, il est notamment question de l'affaire Ben Barka. Alors, étant rappelé que Mehdi Ben Barka a été ce dirigeant politique tiers-mondiste opposant marocain au roi Hassan II et qui a été enlevé le 29 octobre 1965, près de la brasserie Lip, boulevard Saint-Germain à Paris, sans qu'à ce jour, le mystère ait vraiment été percé dans cette affaire, Ronen Bergman révèle dans son livre que cette opération a été intégralement orchestrée par le Mossad, les services secrets israéliens, énonce L'Obs. Selon cette version, un mois avant l'enlèvement de Ben Barka, le roi du Maroc aurait rendu service aux Israéliens qui voulaient savoir ce qui se disait dans une réunion de la Ligue arabe à Casablanca, où devait être mis en place un commandement militaire arabe commun en vue de futures guerres avec Israël, résume ce magazine. Les salles de réunion, mais aussi les suites des dignitaires, ont été truffées de micros avec l'aval de Hassan II, écrit Bergman. Les Israéliens obtiennent des renseignements qui se révéleront capitaux lors de la guerre des six jours en 1967. Mais ils ont désormais une dette. Pour ce coup de pouce, ils reçoivent une facture salée, la tête de Ben Barka. L'Obs rapporte que tout a été bordé par le Mossad qui a préparé les faux passeports, les véhicules, les planques et qui assurera le service après-vente, affirme le journaliste, car rapidement, l'interrogatoire brutal des Marocains vient à bout de Ben Barka. Il décède, précise Bergman, asphyxié après plusieurs plongées dans un bain d'eau croupie. Enterré par les Israéliens en forêt de Saint-Germain, avec un produit destiné à accélérer la décomposition du corps au contact de l'eau, il disparaît à la faveur des pluies automnales, énonce encore L'Obs.
D'autres affaires célèbres sont évoquées dans ce livre, Norbert, certaines déjà connues, mais avec ici des détails inédits.
Oui, le journaliste israélien, par exemple, raconte aussi la mort le 29 mars 1978 de Wadi Haddad, chef de la branche armée du Front Populaire de Libération de la Palestine, le FPLP, décédé dans un hôpital de Berlin-Est dans d'atroces souffrances. Pour l'éliminer, les services secrets israéliens auraient utilisé une arme indétectable en échangeant via une taupe infiltrée dans l'entourage de leur cible son tube de dentifrice contre un autre d'apparence identique mais contenant une toxine mortelle mise au point dans les laboratoires israéliens. Chaque jour, en se brossant les dents, Wadi Haddad s'empoisonnait donc un peu plus. Lorsque les effets sur sa santé apparaîtront, il sera trop tard, affirme l'auteur de ce livre, cité par L'Obs, lequel hebdomadaire ne manque pas de souligner que les fiascos par lesquels se sont soldées certaines opérations secrètes de ces espions israéliens qui tuent ont déstabilisé le Mossad.
Et dans ce domaine, Norbert, la France n'est pas en reste.
Selon le journaliste français Vincent Nouzi, auteur d'un livre publié il y a 9 ans et intitulé « Les tueurs de la République » chez Fayard, depuis les attentats, on peut régler leur compte à des djihadistes français, dit-il à L'Obs. On a brisé un tabou, on tue des Français et on n'a aucun état d'âme. Il faut que le moins possible de djihadistes rentrent sur le territoire national et effectivement, ils ne reviennent pas.
Et puis ces révélations dans la presse cette semaine sur la star de cinéma Isabelle Adjani, sauf qu'il n'est pas ici question de mondanité, mais notamment d'une société offshore.
Oui, pas que. Effectivement, selon l'Express, le parquet national financier aurait ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale après la publication des Panama Papers. Et oui, le nom de la star apparaît en clair dans la base de données sur les montages offshore. Cet hebdomadaire affirme qu'Isabelle Adjani est actionnaire en nom propre d'une société immatriculée en juillet 2014 dans les îles Vierges britanniques. En examinant les relevés bancaires de l'actrice, les enquêteurs sont tombés sur des fonds reçus d'un conseiller du président du Sénégal, Diagna Ndiaye, membre du Comité international olympique, président du Comité olympique sénégalais, tout en étant lié au groupe Mimran, complète l'Express. Selon cet hebdomadaire, en 2013, Diagna Ndiaye aurait versé 2 millions d'euros sur le compte français de la star après la signature d'un contrat de prêt que ce journal affirme avoir consulté. L'Express précise que l'un des enjeux de l'enquête préliminaire est de vérifier si ce prêt a bien été déclaré au fisc français.
Merci Norbert Navarro et à tout à l'heure pour la Une de Jeune Afrique.
À tout à l'heure.